vu son profil parfait. Après c'est pas le seul truc qui s'est levé. Remonté dans le hood, j'ai dû chez le Yekos pour attaquer les salés puis ramasser les foutus levés. Jamais assez dans les boîtes, tu joues avec les policiers, nous enterrer, c'est sans espoir. Enquêter les grands espoirs, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Jamais asserré dans les bois, toujours avec les policiers, nous enterrer, c'est sans espoir. Empiéter les grands espaces, c'est pour ça qu'on est là. Nous enterrer, c'est sans espoir, c'est pour ça qu'on est là.
Ils sont chauds.
Radio G 101.5 FM.
Nous sommes le lundi 26 avril, il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb. Au menu ce soir, de l'épique, de la jeunesse, des petits chiens, des chevaux, ça fait pas mal d'animaux, un loup même. On va parler aussi, mais aussi de la musique, un petit peu de, on va dire divinité, je sais pas trop comment le dire, et puis un petit peu d'esprit critique, et d'autres machins. Attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pour une heure et j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. On est encore presque confiné, hein, donc profitez-en pour avoir de bonnes lectures le soir vu que vous n'avez pas le droit de sortir. Je le rappelle, bientôt on n'aura plus le droit, on n'aura plus besoin des attestations, il me semble. Mais bon, en attendant, prenez soin de vous, restez chez vous et surtout prenez le temps de lire. On va commencer l'émission de ce soir avec une petite sélection jeunesse. Alors vous savez que moi j'essaie toujours de vous offrir le meilleur des conseils et toujours de trouver des choses un petit peu inattendues, ce qui m'oblige à sortir des sentiers battus, à sortir surtout de mes sentiers de lecture habituels. Et pour commencer ce soir, je vais vous parler d'une toute petite BD, une BD qui n'a pas de texte. Une BD pour les plus petits, une BD qui s'appelle Aesop le loup, c'est de Leroy, et ça c'est publié aux éditions Kenes. Donc quand je dis que c'est une BD qui est sans texte, il y a quand même des bulles. Des bulles, oui, mais pas des bulles avec du texte, justement, mais des bulles dans lesquelles on va retrouver des petites icônes qui symbolisent un petit peu ce que pensent ou ce que veulent vouloir dire les personnages. Par exemple, quand un personnage va avoir une ampoule dans une bulle, et ben c'est le j'allais dire l'onomatopée, mais c'est pas une onomatopée, c'est surtout le symbole en fait qui est utilisé principalement dans tous les albums, un truc assez codifié qui signifie que le personnage a eu une idée. De quoi ça parle ? Eh bien, comme le nom de la BD l'indique, ça parle d'Ésope le loup. Ésope est un jeune petit loup qui vit sa vie. Ça a été très modernisé, hein, c'est basé sur les fables d'Ésope, qui lui-même a inspiré les fables de La Fontaine. Et du coup, on a deux grandes histoires en fait qui nous sont racontées dedans, qui vont reprendre les principes de la fable d'Ésope avec ce loup. Et le loup va C'est un loup, hein. Donc il a principalement faim et il va essayer de manger les moutons dans le premier, dans la première histoire. Et dans la deuxième histoire, il est en train de manger et il lui arrive un petit problème. Donc je ne vais pas vous détailler les histoires puisqu'effectivement on est sur quelque chose de très rapide à lire, puisqu'effectivement un adulte y passera quelques instants. Mais l'intérêt, c'est qu'un enfant va pouvoir commencer à le décrypter tout seul. Il suffit juste qu'il ait un petit peu les codes de lecture pour pouvoir comprendre. Donc une première lecture avec les parents, une deuxième lecture tout seul, et une fois que l'enfant a intégré les codes, il peut continuer tout seul sa lecture sans problème, ce qui lui permet d'avoir pour une première BD à lire sans texte. Donc là, effectivement, on a, comme je le disais tout à l'heure, ces bulles qui vont permettre de vraiment rester dans le domaine de la bande dessinée. On avait déjà lu d'autres albums, je vous ai déjà conseillé d'autres albums dans lesquels il n'y avait pas du tout d'image, pas du tout de texte. Là, ça marche plutôt bien. Le dessin, il est rond, il est assez agréable. C'est assez moderne puisque sur la couverture, par exemple, on va retrouver Aesop avec un pantalon et puis une espèce de petit pull. Et il y a un mouton avec une casquette, des baskets et puis ensuite des capuches. Donc ça va aider les enfants à intégrer un petit peu plus les éléments historiques par rapport, enfin les éléments de l'histoire pour les retransposer dans son monde grâce à la modernisation. Et puis ça reste quand même distant puisque ce sont des personnages qui sont fictifs et du coup c'est plutôt sympa. Un petit truc sympa, vraiment cool. Je redonne les références. Il s'agit d'Ésope le loup, promenons-nous dans les bois, c'est le sous-titre, de Leroy, et c'est publié aux éditions Kenes. Je vais enchaîner avec un petit peu de promo local, avec la sortie de Klebs, pas de chien-chien pour sa mémère, de Olivier Supio, hein, qui est toujours angevin ou plus très loin, aux éditions Delcourt, dans la collection Soleil Pop, une collection dédiée à l'humour, dont c'est le premier album, hein, si je ne me trompe pas. Dans cet ouvrage, Olivier Supio, il va travailler en bande, en strip. C'est un genre, je me rappelle pas l'avoir vu déjà dans ce genre-là. Et ce sont des gags en deux bandes. Il y a deux bandes de strip par page, et ça va nous parler de la vie de petit toutou. Vous connaissez certainement l'expression une vie de chien, qui signifie ne pas avoir une vie facile. Et ben ça prend ici tout son sens, puisqu'on va découvrir des toutous qui ont des mésaventures. Donc ça s'adresse aux plus jeunes, hein. Il y a des blagues qui sont des blagues de prout, hein, qui feront marrer ma fille, par exemple, a beaucoup aimé. Et ce sont vraiment des blagues qui se lisent très rapidement. Donc c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Je pense que toutes les blagues ne vous feront pas rire, mais vous y trouverez forcément à un moment votre compte. Si vous connaissez déjà le travail d'Olivier Supio, vous allez retrouver facilement cette espèce de petite douceur, de tendresse dans l'humour qui fonctionne assez bien. Et puis vous retrouverez également les couleurs d'Olivier. Il y a une façon de travailler qui fait qu'il y a un gros... Ça claque vraiment en termes de couleurs. Et il y a un bon travail qui a été fait sur les pelages des animaux, des chiens du coup, qui est vraiment, vraiment cool. Donc ce sont des gags qui sont tout en humour et tout en simplicité. Il n'y a pas forcément besoin de se prendre la tête, et c'est super agréable. Je vais pas vous lister tous les chiens. Moi, plutôt que de... C'est un conseil que je vous donne quand vous avez des albums en strip comme ça, plutôt que de les lire d'une seule foulée, ce qui à mon sens peut être lassant, prenez le temps de le picorer. Vous le laissez dans un endroit qui soit bien apporté, et puis vous le prenez un petit bout, et vous allez voir, c'est comme ça que ça se savoure, c'est comme ça que c'est le mieux. Et c'est comme ça que vous y prendrez le plus de plaisir. Et voilà, donc je le dis souvent, mais je vous raconte un peu ma life. Mais nous, à la maison, on a une petite étagère au niveau des toilettes. Et les livres en strip, c'est ici que je les mets, parce que c'est facile en fait d'accès, c'est facile de les prendre, de lire deux trois gags, sans passer une heure aux toilettes et sans passer une heure sur son album. Et du coup, on a passé un bon moment dans les deux sens. Bref, fin de la parenthèse, ma life. Je vous redonne les références. C'est un bel album, c'est assez sympa. C'est Klebs d'Olivier Supio. C'est sous-titré Pas de chien chien pour sa mémère. C'est aux éditions Soleil, dans la collection Soleil Pop. Je continue avec un autre album qui ne m'était visiblement pas destiné. Hein, je veux pas dire que tout est marketé, mais il y a des albums, quand tu vois les couvertures, tu te dis, tiens, ça c'est plutôt un album pour les petites filles ou un album pour les petits garçons. À l'heure à laquelle on vit dans notre société et toutes les transformations qui sont encore en cours, c'est encore un produit, la bande dessinée, sur laquelle on trouve vraiment des choses qui sont assez genrées. Du coup, je me suis dirigé vers Louise et Ballerine de Maïma Zimmermani. Je recommence, de Naïma Zimmerman et Alessandra Marsili. C'est aux éditions Miss Jungle et c'est sous-titré « Rat des villes et rat des champs ». L'histoire, c'est celle de Louise, la jeune fille du titre, qui déménage avec ses parents à la campagne. Dans ce déménagement, elle quitte tout ce qui lui est cher, maison, amis, école et surtout son club de danse et ses copains. Perdue dans une maison toute délabrée que ses parents vont se mettre à retaper, la jeune fille va dans un premier temps faire ce que toute petite fille fait lorsqu'elle est contrariée, aller bouder dans sa chambre. Puis, elle va commencer à essayer de explorer, se rendre compte de ce qu'il y a autour d'elle. Et puis, elle va partir à l'encontre de son environnement, de la campagne et de ses autochtones. Elle va découvrir alors un petit garçon et une petite fille avec qui ça va bien se passer. Et elle va découvrir la grand-mère et la mère de la jeune fille. La grand-mère, c'est une femme ancienne acrobate à cheval, reconvertie dans un foyer d'accueil pour animaux. Elle va également très vite nouer contact avec Impératrice de Mai, un cheval qui a été mis au repos en retraite anticipée, mais un cheval qui est plutôt taquin. Et sous l'œil de la grand-mère, ce cheval et cette jeune danseuse vont faire surgir dans la tête de la vieille dame des envies, je dirais souvenirs, refoulés et très tenaces. Ce premier tome d'introduction prend son temps pour poser les personnages, le décor et les situations. Alors, loin.
Radio G. www.radio-g.fr.
101.5 FM.
Alors je vais faire un petit truc pour cette section de l'émission. J'ai eu l'occasion d'interviewer dans des conditions d'hygiène clean, un masque et tout, une autrice angevine dont le deuxième album est sorti il y a quelques jours, que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps de lire. Donc ce que je vous propose, c'est de découvrir la petite interview qu'on a réalisée ensemble, et puis dans 15 jours je vous ferai une critique de l'ouvrage, alors sans doute plus courte que d'habitude puisqu'on aura déjà abordé le tome sur l'interview d'aujourd'hui. Il s'agit d'Amy Billet qui a sorti Ma vie d'instit. Alors le premier tome est sorti il y a 2 ans. Elle avait été reçue au festival NGBD dans la catégorie première bulle, et du coup elle continue avec la sortie du tome 2 le 21 avril. Donc vous voyez, quand je dis que c'est tout proche, c'est tout proche. Alors, est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi-même ?
Donc, Émilie, professeure des écoles à Angers depuis 8 ans maintenant. Je suis titulaire d'une classe de CE1-CE2 dans une petite école de la Doutre. Et depuis 5 ans, je dessine des anecdotes de vie de maîtresse et des perles d'élèves sous forme de bande dessinée. Et je publie ces planches sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une page Facebook, un compte Instagram. Je suis un peu aussi sur Twitter. Et chemin faisant, j'ai été contactée par une maison d'édition qui était intéressée pour faire une bande dessinée à partir de mes planches. Donc, j'ai réalisé une bande dessinée qui est sortie en 2019. Qui s'appelle donc Ma vie d'instit, et elle a très bien marché, elle s'est bien vendue, donc mon éditeur m'a proposé de réaliser un tome 2 qui sortira donc le 21 avril.
Est-ce que tu peux nous parler de tes méthodes de travail ? T'es plutôt traditionnelle, numérique ou bien les deux ?
Je suis de plus en plus numérique maintenant. Au début, quand je commençais la bande dessinée, je faisais beaucoup de dessins d'abord à la main, papier crayon, que je scannais ou que je prenais en photo, et puis après je retravaillais ça à la tablette sur Photoshop. Et à force de travailler, finalement j'ai pris le coup de main, et maintenant j'ai plus besoin de faire un brouillon avant avec un papier et un crayon, je fais directement sur Photoshop avec ma tablette graphique.
Est-ce qu'il t'arrive de gribouiller pendant les cours ?
Non, j'ai pas le temps. En classe, j'ai pas du tout le temps. Ou alors, je dessine au tableau pour montrer des choses à mes élèves, non, j'ai pas du tout le temps de dessiner des situations de classe en classe.
Comment est-ce que tu qualifierais ton style graphique entre le premier et le deuxième album et son évolution ?
Alors, je pense qu'au début, je dessinais peut-être de manière un peu plus enfantine que maintenant. J'ai l'impression que mon style s'est épuré. Après, c'est pas évident d'avoir un regard sur ma pratique, mais j'avais tendance à faire des personnages peut-être un peu plus dans le détail, un peu plus en mode manga, Barbie, et maintenant je dirais que ça va plus droit au but, tout en gardant des détails quand même, mais voilà, un contour noir, et puis les couleurs et les ombres, et c'est parti quoi.
Est-ce que tes élèves savent que tu fais de la BD et qu'ils sont ta principale source d'inspiration ?
Oh oui, ils le savent et ils me le rappellent régulièrement d'ailleurs, au cas où j'oublie. C'est-à-dire que les anecdotes qu'on retrouve dans mes livres, on les vit régulièrement en classe, et donc ça peut arriver qu'un élève me dise « Ah mais ce qu'on est en train de faire là, c'est comme dans ton livre, machin, il a demandé fallait souligner la date en rouge, t'as vu, c'est comme dans ton livre, à telle page. » Donc en fait, ils adorent quand on fait le lien entre la maîtresse et la dessinatrice, quoi. Non, beaucoup de complicité, en fait, c'est un petit truc qu'on a en plus. Ils le savent tous, ils ont quasiment tous le livre, donc il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas... Le peu d'enfants qui n'auraient pas le livre se le font prêter par les autres, donc voilà. n'y a pas de problème.
Au début de l'album, on voit ton début de carrière, pas toujours joyeux, et avec du recul. C'est mieux maintenant ou c'est toujours compliqué ?
C'est beaucoup mieux maintenant. D'autant plus qu'en début de carrière, forcément, je débutais. Je faisais mon expérience sur le tas. Je considère vraiment que j'ai appris beaucoup en remplacement au tout début. Et puis après, quand je suis arrivée, c'est pas les pages qui sont en ligne pour l'instant, mais quand je suis arrivée dans une petite école et que j'avais 5 niveaux dans ma classe, c'était une école de 2 classes. J'avais du CP au CM2 dans ma classe, donc c'est propice à l'inspiration pour le dessin. J'y passais mes soirées, j'étais pas encore maman à l'époque. J'y passais mes soirées, mes week-ends, mes vacances. C'était énorme la charge de travail, mais hyper formateur.
Est-ce que tu peux nous dire comment la situation Covid a impacté ton travail et ta BD ?
Alors, il y a un an, quand on a été confinés, ça m'a laissé du temps, en fait. Ça m'a inspirée, évidemment, mais ça m'a aussi donné du temps pour dessiner. Et j'ai eu toute une période entre mars et mai, là, où je passais énormément de temps à dessiner. Et puis évidemment la situation faisait que j'avais plein d'idées en tête, parce que entre communiquer avec mes élèves qui étaient chez eux, leur envoyer le travail, communiquer avec mes collègues, tout ça à distance, c'était compliqué. Et fallait gérer la famille aussi. Enfin, je pense que ça a été compliqué pour tout le monde, mais moi je de manière égoïste, je pourrais dire que ça m'a donné du temps et de l'inspiration pour dessiner.
Alors le hasard des dates, c'est rigolo parce que suite au report de la sortie du tome 2, les sorties coïncident presque avec la date anniversaire du tome 1.
Oui, c'est un joli clin d'œil en fait. Il devait sortir en février, ça a été repoussé en partie à cause du coronavirus. Mais là c'est vrai que ça tombe 2 ans après le tome 1 qui est sorti le 3 avril 2019. Donc c'est rigolo.
Est-ce que tu as d'autres projets BD ? Alors seul, en collaboration, en tant que scénariste ou en tant que dessinatrice ?
Alors un tome 3 pas forcément, mais moi j'aimerais bien me lancer vraiment dans une bande dessinée où on retrouverait les mêmes personnages pendant toute l'histoire en fait. Toujours sur fond d'école, je pense. Parce que c'est ce que j'aime dessiner et je me vois pas complètement sortir de ce contexte-là pour l'instant. Mais j'ai des idées. Pour l'instant, c'est sous forme de tableaux, de brouillons sur mon ordi. Il y a rien de dessiné, c'est juste un scénario. Mais je compte bien le mener à son terme. Je ne sais pas en combien de temps, mais j'espère y arriver. Toute seule pour l'instant, ouais. Je me verrais plus en tant que dessinatrice que scénariste. Après, j'ai tout à apprendre. Hein. Je connais pas du tout. Enfin, je vois pas du tout ce que ça peut donner. J'ai jamais vécu de collaboration comme ça, donc je demande à apprendre. Pourquoi pas ? Je me ferme pas de porte en tout cas.
Allez, maintenant on fait l'instant super promo. Si les gens devaient acheter ton livre pour une seule raison, quelle serait-elle ?
Ce serait de se glisser dans les coulisses de la vie d'enseignant. Parce que dans cette bande dessinée, je me livre beaucoup, je parle beaucoup de mon expérience et je parle aussi du revers de la médaille. Je parle pas forcément que de ce qui se passe en classe. Il y a beaucoup de pages là-dessus quand même, mais il y a aussi un peu la vie privée de la maîtresse, quoi. Comment ça se passe quand on est enseignante et qu'on n'est pas toujours devant les élèves, quoi. On n'est pas tout le temps en vacances. Pendant les vacances, on doit travailler aussi. Il y a une charge de travail qui représente beaucoup plus que ce qu'on connaît, hein, la face immergée de l'iceberg. c'est vrai que j'en parle un peu dans la BD.
Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant où on peut te retrouver, que ce soit dans la vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux ?
Le livre sera en vente dans les librairies d'Angers, donc Contact, Richer, La Sadelle, Le Repère des Héros, à la FNAC aussi, la galerie, l'espace culturel du Leclerc. Et puis, c'est aussi sur Internet, sur les sites Cultura, Amazon, librairie indépendante. Donc, sur Facebook, c'est le nom de la page, c'est Pour mieux te croquer, Amy Bill. Sur Instagram, c'est Amy Bill PMTC. PMTC comme pour mieux te croquer. Et puis sur Twitter, c'est aussi Amy Bill PMTC.
Merci Amy Bill. pour continuer, on va parler manga. Alors, je vais diviser hein, sans doute la chronique en deux. C'est-à-dire que je vais faire une partie manga là, une pause musicale et une partie manga après avant d'enchaîner. Là, je vais vous parler d'une série que je ne connaissais pas, qui était passée sous mon radar et que j'aurais aimé connaître un petit peu plus tôt. Il s'agit de Carol et Tuesday. C'est publié aux éditions Nobby Nobby. De Morito Yamataka et c'est basé sur une série d'animation du studio Bones qui a été créée pour l'anniversaire du studio Bones, c'est 25 ans je crois, j'ai pas vérifié, et qui est disponible sur la plateforme Netflix. D'abord la série Netflix et après le manga. Donc je vais parler un petit peu des deux, des différences qu'il y a entre les deux, sachant que voilà, comme je le disais il y a un instant, le manga est l'adaptation de la série animée. L'histoire, c'est celle de deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ont une passion commune, savoir la musique. Il y a Tuesday qui est une jeune fille de famille riche dont les parents, au moins la maman, ambitionnent énormément en politique. Et puis celle de Carol, une jeune fille issue de l'immigration qui vit sans le sou. Un jour, Tuesday décide de se faire la malle puisque sa maman ne semble pas partager sa passion pour la musique. Et du coup, Tuesday, elle en souffre énormément et elle décide de fuguer. Au détour d'un pont, elle va rencontrer Carol qui, afin de joindre un petit peu les deux bouts et aussi de se soulager de ses journées un petit peu complexes, puisque la jeune femme essaie de travailler au maximum, mais elle a un petit problème, un petit peu trop de spontanéité peut-être, qui fait qu'elle a du mal à conserver un emploi très longtemps. Et du coup, pour effectivement passer ces journées un peu compliquées, elle joue du piano sur un pont, sachant qu'elle est quasi persuadée que personne d'autre qu'elle-même n'écoute la musique et les sentiments qu'elle met dans ce piano. Carol et Tuesday vont se rencontrer sur ce pont et très vite une sorte d'affinité va se créer. Tuesday est une des seules personnes à s'être arrêtée pour écouter Carol jouer son piano et une sorte de coup de foudre, on pourrait presque le parler, va se créer à ce moment-là. Le Tuesday va se retrouver hébergé par Carol et elles vont commencer à se rendre compte que jouer ensemble c'est quelque chose qui leur plaît beaucoup. Et par un petit concours de circonstances, elles vont se retrouver à jouer sur le piano du hall de l'immigration, un magnifique piano. Donc Carol fait du piano, vous l'avez compris, et Tuesday est à la guitare. Et cette petite impromptue musicale va être filmée par quelqu'un qui va la mettre en ligne tellement il a trouvé ça bien. Et là, c'est le buzz total. Tout le monde est fan de Carol et Tuesday. La vidéo devient virale et les deux jeunes femmes deviennent des stars sans s'en rendre vraiment compte. Et elles vont attirer l'attention d'un ancien musicien reconverti en manager qui est actuellement désœuvré et passe ses journées la tête dans l'alcool. Il se dit que lui, il a reconnu un talent fou et il va essayer de les manager pour pouvoir leur permettre d'accéder au statut de vraie star et de pouvoir publier un disque. Faut savoir que l'histoire, alors je trouve que, vous voyez, je vous ai fait un résumé, on n'en parle pas, c'est pas très très grave. L'histoire se passe sur Mars dans 50 ans, je crois. Donc l'univers est légèrement différent, il y a des avancées technologiques, il y a un peu de SF, mais c'est pas primordial. On se rend compte qu'il y a vraiment une vie normale malgré quelques avancées technologiques et notamment dans la musicale. Là, le point principalement différent, et c'est aussi là où la critique va pouvoir être faite par rapport à notre système musical actuel, c'est qu'il y a beaucoup d'IA, d'intelligence artificielle dans ce monde, et qu'elle supplante beaucoup les humains sur de nombreux domaines. Les IA, par exemple, sont capables de créer de la musique. Elles vont créer des morceaux, des paroles, elles vont soutenir, on va dire, les créateurs et enlever un petit peu de cette magie, de cette émotion que les gens peuvent mettre en créant de la musique. Et Carole et Tuesday vont arriver à faire un morceau musical, un ou plusieurs morceaux musicaux, qui vont se passer d'IA et qui vont conquérir le monde et directement le cœur des gens. Donc l'histoire, hein, vous l'aurez bien compris, c'est une critique de l'industrie musicale, de ses tenants, de ses aboutissants, mais c'est aussi la rencontre et le destin parallèle de deux personnes. On a bien entendu Carole et Tuesday, mais on a également aussi le destin d'Angela en parallèle, qui est le destin d'une jeune femme, une enfant star, qui faisait principalement du mannequinat ou des rôles de figuration. Elle est très populaire et sachant sa jeunesse en train de se finir, elle se dit qu'elle se reconvertirait bien dans le rôle d'une chanteuse. Et là, elle va aller voir quelqu'un qui va l'orienter et la coacher à travers justement de la musique créée par IA, une musique qui est censée être parfaite. Et on a ces deux créations, ces deux destins parallèles, celle qui va tout faire, quitte à utiliser de l'argent et tous les moyens technologiques nécessaires pour créer quelque chose qui va être commercialement parlant, capable de conquérir le cœur des auditeurs, et ceux qui font de la musique instinctive, qui le font principalement pour eux et qui fait que bah, effectivement ça marche. Et c'est hyper sympa. Les personnages sont hyper attachants. Moi j'adore en fait les personnages. Ils sont plutôt cool. Même Angela qui pourrait être vraiment présentée comme un antagoniste. En fait c'est un autre personnage. C'est pas un antagoniste. C'est quelqu'un qui a un destin différent, qui utilise d'autres moyens pour atteindre son but. Sans pour autant la diaboliser. Si au début du manga, on se retrouve avec un personnage qui est quand même globalement... C'est une peste. Voilà, je sais pas comment dire. Elle est désagréable, c'est une peste. Au fur et à mesure, on se rend compte que bah, c'est un personnage qui est plus complexe que ce qu'on voudrait nous présenter et que sous la façade un peu lisse et hyper travaillée, bah, il se cache des petites choses. Il y a beaucoup de personnages, des personnages qui sont drôles. Gus, le manager, est assez terrible. Mention spéciale à un personnage qui s'appelle Ertegun, qui est la quintessence du DJ. C'est dans toute sa caricature phénoménale. Et c'est vraiment super cool. La série... donc là, les différences entre la série et le manga. Le manga, c'est un manga qui va se clôturer en 3 tomes. Et les arcs narratifs sont différents de la série animée. Là où la série avait fait le choix de dresser un parallèle dès le début de la série entre Angela et Carole et Tuesday, là, Angela, elle est à peine abordée dans le tome 1 et on va la découvrir vraiment pleinement dans le tome 2. Il y a des événements qui sont complètement différents, qui sont gérés de manière vraiment... La composition est vraiment différente et c'est vraiment sympa de voir les deux choses. Je vous avoue que là, j'ai quasiment fini les deux premières saisons. Quand je suis arrivé au niveau du tome 2 dans ma lecture, je me suis dit, mais mince, il y a quoi dans la deuxième saison ? Vous verrez, il y a des pistes, il y a des choses qui se créent et c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose qui est très fin, qui est très travaillé. Les personnages sont super cool. Il y a des jeux sur les coiffures. Carole a une espèce de elle est typée un peu afro-américaine. Enfin, elle a la peau caramel. Elle a les cheveux qui doivent être un peu crépus et en fonction de la façon dont elle les attache, ils ont joué sur ses coupes de cheveux et c'est plutôt agréable. Alors que Tuesday fait plus petite poupée avec des robes à froufrou et Angela elle est plus très urbaine, streetwear, mais toujours féminine. Et c'est vraiment, il y a vraiment des choses qui ont été très travaillées au niveau du chara design, au niveau du dessin. C'est vraiment cool. Que ce soit dans la version manga, on retrouve bien les personnages dès la façon dont ils ont été présentés dans l'animé. Et dans l'animé, on a des choses qui sont colorées. L'animé je dirais que l'animé prend un peu plus son temps pour faire découvrir. Et il y a beaucoup de passages et de phrases musicales en fait dans la dans l'animé, ce qui va rendre le rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus contemplatif que dans la partie manga. Je dirais qu'effectivement, s'il ne manque qu'une seule chose dans le manga, eh ben ce sont ces morceaux musicaux qui sont globalement super agréables et voilà, c'est un bon moment à découvrir. Je leur donne les références, c'est Carole et Tuesday, c'est dessiné et scénarisé par Morito Yamataka, c'est basé sur une œuvre originale du studio Bones et de Shinichiro Watanabe. La série est disponible sur Netflix, il y a actuellement 2 saisons, je ne sais pas s'il y en aura une autre, et aux éditions Nobi Nobi, il y aura 3 tomes, là il y en a 2 actuellement disponibles, mais le 3e devrait sortir incessamment sous peu. Je vous propose de refaire une nouvelle pause musicale et pourquoi pas de profiter d'un des morceaux de la série animée. Il s'agit de Army of Two de Carole et Tuesday.
Tomorrow, for the bond we share is beyond compare. It's a
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Vous venez d'écouter Army of Two de Carole Tuesday, issu de la série Netflix. Pour la chronique qui vient, je vais vous parler d'un... Alors, c'est pas un manga, c'est pas un manhwa, c'est pas un franhwa, aussi moche cette appellation soit-elle. Il s'agit d'un webtoon qui est publié dans une nouvelle collection aux éditions Delcourt, la collection K-Books, qui est une collection consacrée aux webtoons. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est un webtoon. Le webtoon, c'est un format numérique de bande dessinée coréenne, et le concept, ce sont des images qu'on va faire défiler au fur et à mesure. On ne le feuillette pas de page en page, mais on ne le feuillette pas de gauche à droite ni de droite à gauche, mais de haut en bas. C'est un format qui est forcément bien approprié pour la lecture sur ordinateur, sur tablette ou sur téléphone. C'est un format qui fonctionne énormément, et les éditions Delcourt ont senti certainement le filon et ont décidé de consacrer une collection complète à ce nouveau format. Ils ont bien entendu, on va pas dire que c'est un reproche qu'on peut leur faire, mais ils l'ont mis dans une version qui est lisible simplement dans nos contrées, c'est-à-dire de gauche à droite sur la lecture. Un format à la verticale aurait sans doute été possible moyennant une espèce de cafouillage sur la maquette, une espèce de bricolage, mais bon, ça se lit bien comme ça, il n'y a pas de souci. Et pour parler de cette nouvelle collection, je vais vous parler d'un manga, du coup webtoon, il faut que j'arrive à le lire, qui s'appelle Solo Leveling. Donc je risque d'écorcher les noms des personnages qui sont dedans. J'avais prévu de faire dire les textes, les noms originaux coréens par quelqu'un, sauf que j'ai un problème de format et je ne peux pas intégrer ce qui a été fait dans mon émission, dans mon enregistrement de podcast. Donc je m'excuse d'avoir fait travailler ma belle-sœur pour rien, mais ça arrivera d'autres fois, ne t'inquiète pas ma chère belle-sœur. Donc parlons donc de Solo Leveling. Solo Leveling, c'est de Dubu Redice Studio et de Chugong, je pense que je suis pas trop mauvais dans ce texte. Imaginez un monde comme le nôtre où du jour au lendemain des portails apparaissent aux quatre coins du monde. Ces portails sont des espèces d'ouvertures vers des univers alternatifs peuplés d'étranges et méchantes créatures qui vont les franchir et qui vont commencer à massacrer les gens. Du jour de l'apparition de ces portails, des gens se retrouvent avec des capacités un petit peu surhumaines. Ces gens sont appelés les chasseurs. Ces gens ont des compétences, soit des compétences de soins, alors beaucoup de compétences propres à ce que nous on va pouvoir retrouver dans des jeux d'Heroic Fantasy, dans des univers d'Heroic Fantasy, il va y avoir des soigneurs, des guerriers... ce genre de choses, et ils ont un rang défini, un rang de puissance. Au moment où ils se sont éveillés, le rang de puissance a été déterminé, et ce rang de puissance ne va pas changer. Il n'y a pas de progression, hors cas très 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 exceptionnel de changement de rang, mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Jinwoo qui lui a un rang très faible. Non seulement il a un rang très faible, mais en plus il est un peu mauvais, puisque les chasseurs, pour contrer on va dire l'attaque des monstres, vont avoir la possibilité pendant un certain laps de temps de traverser ces portails et d'empêcher de battre une espèce de boss qui se situe dedans pour empêcher l'ouverture complète du portail et le déferlement des créatures. Il faut considérer qu'il y a à peu près, je crois que c'est 5 jours entre le moment où le portail s'ouvre et le moment où les monstres peuvent en sortir, ce qui laisse quand même le temps de s'organiser. Et à l'instar de jeux vidéo comme World of Warcraft ou des jeux mobiles, eh ben les groupes de chasseurs vont s'organiser pour aller raider ces petits donjons et défoncer le boss pour empêcher que les monstres sortent et préserver l'humanité. Et Jinwoo, lui, ne peut s'attaquer qu'à des donjons de niveau assez faible et il arrive quand même à ressortir blessé. Et avec un groupe de camarades, d'autres chasseurs, ils vont rentrer dans ce donjon, dans un donjon particulier, et tout ne va pas se passer comme prévu. Puisqu'à l'intérieur de ce donjon, ils vont découvrir un donjon dans le donjon, une sorte de donjon secret, avec des règles bien spécifiques, qui va mettre très très mal le groupe parvenu dans ce donjon. Et là, je vais vous spoiler un tout petit peu, puisque ça reste quand même le principe de ce webtoon, c'est qu'un événement particulier va faire que Jinwoo va avoir la possibilité de gagner des niveaux, si je peux le faire. Il va avoir accès à des options que personne d'autre n'a. Ce qui va lui permettre de progresser. Mais ça, c'est arrive à la toute fin en fait du webtoon et du coup, c'est vraiment un tome d'introduction, hein, vraiment un tome où on vous expose toutes les règles de cet univers. Là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on a tout ce qui a fait un succès, les succès des isekai. Vous prenez Re:Zero, le héros qui arrive et qui devient super gros Bill. Vous prenez tous les isekai en fait. Pourrait rentrer dans les codes de Solo Leveling. Sauf que c'est pas un isekai, ça se passe dans notre monde. Hein. C'est pas un personnage qui est projeté dans un autre univers. Et puis, il n'y a pas une sorte de cheat. Il se passe un événement qui va permettre à Jinwoo d'évoluer. Et c'est ça qui est vraiment sympa. On a vraiment un héros qui est un loser au début. Il va faire les donjons avec les autres simplement parce que si lui il vient, les autres savent que le donjon il sera peinard. C'est une sorte de mascotte ou de le comment on appelle ça. Les mineurs, ils allaient toujours avec un petit canari. Si le canari il clamsait, fallait qu'il ressorte tout de suite. Là, on peut dire que Jinwoo, c'est un peu le canari. Et bien là, on peut dire que Jinwoo, c'est un petit peu le canari dans ces donjons-là. Graphiquement, c'est très propre. Donc, c'est une création complètement numérique. Il y a beaucoup d'aplats, mais ça n'empêche pas d'avoir un détail poussé. Ça n'empêche pas d'avoir une... C'est vraiment très très classe. Les personnages sont stylés. Au niveau du chara-design, pour l'instant, on est sur des choses qui sont pas ouf. Les personnages se reconnaissent facilement les uns des autres, mais il n'y a pas de chara-design stylé avec des grosses armures. Et pourtant, on se retrouve à avoir des décos. Pourquoi il n'y a pas de chara-design ultra stylé? C'est parce que les personnages, c'est des personnages de notre quotidien. Hein. Ils ont des capacités, ils ont des armes, mais globalement, ils viennent de notre monde. Donc, je pense que ça n'aurait pas été intéressant de leur mettre des grosses armures de barbares. Je ne sais pas, moi, si je veux aller me promener, à part si je fais du zen, j'ai pas de grosse armure de barbare. Et ça marche très très bien, c'est vraiment très efficace. Graphiquement, c'est très joli. On n'a pas l'impression de lire quelque chose de gros, de grossièrement fait numériquement. C'est vraiment assez fin, c'est très joli, c'est très détaillé. Au niveau de narration, ça reste très fluide. On n'a pas l'impression d'avoir une série animée adaptée en manga ou en comics, comme ça peut parfois être le cas. Et c'est vraiment vraiment agréable. Donc c'est vraiment un bon point, c'est vraiment un bon truc. J'ai vu des gens critiquer un petit peu Solo Leveling sur la suite. Ouais, après je peux pas. Moi, je n'ai pas lu la suite, donc je ne peux pas pour l'instant. Je me réserverai la surprise sur la publication au fur et à mesure, ce qui, à mon avis, est une bonne idée à faire. Si vous aimez les isekai, ça vous plaira également. Si vous avez envie de découvrir autre chose, ça devrait vous plaire également. Le seul petit bémol que j'ai, je pense que ça, c'est dû à la création, c'est que parfois, on a quelques petites images qui sont pixelisées, mais création uniquement numérique, donc je pense que la partie adaptation papier, ben voilà, ça doit bloquer un petit peu parfois, mais c'est vraiment très très bien. Au niveau fabrication, parlons un petit peu parce que c'est une nouvelle collection. On a un ouvrage broché sur le côté. C'est un dos carré avec des grands rabats. Donc il n'y a pas de surjaquette comme sur les mangas. On est sur un format qui est plus grand qu'un format manga. Ça permet d'en profiter un peu plus. Et puis on a un lettrage doré embossé dans la couverture avec un vernis sélectif. Donc c'est un bel ouvrage. Si toute la collection est comme ça, à mon avis, ce sera super cool. Et vraiment, profitez-en, c'est une bonne idée. Je redonne les références. Il s'agit de Solo Leveling. C'est chez Delcourt dans la collection K-Books. Et c'est de Dubu et Shugong. Et encore une fois, je m'excuse si j'ai insulté qui que ce soit en prononçant mal les noms. Je ne pense pas, mais bon, on sait jamais. Ça va mieux en le disant. That's all, folks. Allez, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Vous pouvez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur www.radio-g.fr. Si vous n'êtes pas déjà en train de l'écouter, il est trouvable dans l'onglet La Case de Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des petits messages et d'avoir vos retours sur l'émission. Sur Facebook, c'est La Case de Seb. Sur Instagram, c'est La Case de Seb. On se retrouve pour de nouvelles lectures dans 15 jours. Et en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Eh ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire. Ben, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi.